Pourquoi mettre tant d'emphase sur l'être humain devrait retourner à sa source? Est-ce que l'animal sur la Terre n'est pas lui aussi un être muni des mêmes outils biologiques que l'être humain?
S'occuper du sort des animaux sur le plan de l'évolution, ou s'occuper du sort des règnes qu'on appelle inférieurs sur le plan de l'évolution, c'est très bien, philosophiquement. Mais si l'homme ne s'occupe pas de lui-même, si l'homme n'en vient pas à convenir avec sa propre réalité, comment voulez-vous qu'il convienne avec la réalité du royaume animal, du royaume de la plante, du royaume minéral?
C'est de penser que l'homme doit se regarder continuellement, et quand on dit l'homme, c'est l'être humain, l'humanité doit penser à se regarder elle-même, et c'est encore l'exclure du monde dans lequel il vit. Le monde dans lequel il vit n'est pas l'être humain comme le nombril de la planète Terre. Il y a des insectes, il y a des animaux plus évolués qui existent sur la planète Terre. Il y a aussi des végétaux qui existent sur la planète Terre et qui ont tous été, finalement, au départ, le produit d'un esprit créateur qui les a créés, comme l'être humain. Ils ont tous une liaison plus ou moins grande avec les plans de l'esprit.
Mais ce ne sont pas ces règnes-là qui ont un problème. Les plantes n'ont pas de problème, les animaux commencent à en avoir un peu, et l'homme en a beaucoup. Et les problèmes qu'ont les animaux ou les plantes ou le minéral relèvent de l'homme. Tant que l'homme n'aura pas convenu avec sa réalité, les règnes inférieurs seront menacés dans leur évolution.
D'où vient que les plantes n'ont pas de problème?
Quand je dis que les plantes n'ont pas de problème, je veux dire que les problèmes de vie, les problèmes d'évolution, relève de l'incompétence de l'intelligence de l'homme. Si l'homme était intelligent, créatif, les règnes qui lui sont inférieurs ne seraient pas affectés par son incompétence. Alors quand on s'interroge, qu'on s'occupe de l'évolution ou du bien-être de ces règnes-là, c'est très bien, philosophiquement, ainsi de suite, ça montre une sorte d'intérêt vital, une certaine sensibilité philosophique. Mais tant que l'homme ne sera pas arrivé à conscientiser son intelligence, tant que l'homme ne sera pas arrivé à sa réalité, quand il n'aura pas fait la connexion avec sa réalité invisible, son esprit, son double, appelez ça comme vous voulez, ce qui est de la Terre, qui dans le passé était très beau, deviendra très laid. Très malade. Parce que le règne supérieur, la vibration la plus haute, domine toujours la vibration la plus basse. Donc votre question, elle est intéressante, mais elle ne mène nulle part. Où l'homme doit aller, où l'homme doit penser, le domaine de sa propre expérience, qui convient de son évolution, éventuellement dominera tout le reste de la Terre. Alors, la question qui fait face à notre réalité aujourd'hui, la question la plus pressante de l'homme aujourd'hui, ce n'est pas une question qui doit être dirigée seulement vers... Je n'ai pas d'objection à ce qu'on parle des animaux, des plantes ou du minéral, aucunement. Mais je dis que la question la plus pressante de l'humanité aujourd'hui pour les hommes, c'est la question de l'évolution de l'homme. Il faut à un certain moment que l'homme passe de l'involution à l'évolution, que l'homme passe de la mort à l'éveil. Il faut que l'homme en arrive à syntoniser ses capacités créatives. Il faut que l'homme en arrive à voir, à sentir, à ressentir, à connaître son identité individuelle. Et à partir de ce moment-là, votre question sera très bien résolue.
Parce que dans l'ésotérisme, on dit souvent que les plans inférieurs se révolteront. Si l'homme continue à mal agir, la Terre se révoltera, les volcans, les continents, les plantes, les végétaux.
Mais oui, mais de dire que la nature va se révolter contre l'action de l'homme ou l'inaction créative de l'homme, c'est une chose. C'est évident. D'ailleurs, on le vit aujourd'hui. Les prises de conscience philosophiques ou spirituelles que nous connaissons dans le monde, c'est du très beau langage de dire que la conscience de l'homme, si elle ne s'ajuste pas, va faire en sorte que les éthers vont troubler les matières fondamentales, donc il y aura éruption volcanique, tremblement de terre. Ça, c'est une chose. Ça fait partie des lois cosmiques. Il est évident qu'il y a une relation entre les éthers subtils de l'homme et les éthers inférieurs. Mais le point que je veux faire, c'est que l'homme, tant que l'homme ne redressera pas sa vue, tant que l'homme n'en arrivera pas à la conscientisation, tant que les forces de vie n'auront pas commencé à réellement faire accélérer l'homme dans une direction d'évolution, il est évident que l'homme subira, à cause de son action, il subira les conséquences de cette action. Donc, d'une façon ou d'une autre, les volcans ils feront éruption, les terres s'ouvriront, il y aura des pestes, il y aura des famines, parce que ça fait partie de l'inconscience de l'homme. Nous devons voir que l'homme ne peut pas rien corriger dans la vie tant qu'il n'est pas lui-même corrigé intérieurement. Alors, la question, elle est bonne, elle est intelligente, elle est d'ordre philosophique, spirituel, de sensibilité, mais le point n'est pas là. Le point, il est dans l'homme. C'est l'homme qui doit être changé, c'est l'homme qui doit être transmuté, c'est l'homme qui doit prendre conscience, et au cours des siècles, parce que tout ceci prend du temps, au cours des siècles, il y aura une très grande amélioration de la conscience planétaire, et donc tous les règnes inférieurs à l'homme bénéficieront de sa conscience supérieure.
Bon, bien, maintenant, Bernard, je voudrais essayer de vous expliquer un peu pour quelles raisons j'ai essayé d'aborder le fait que les animaux ou la nature se révoltera devant l'inconscience des actions de l'homme. C'est qu'on admet que la nature, les animaux, les végétaux sont des règnes inférieurs au niveau de l'être humain. Et vous admettez vous-même, vous venez de dire, que ça pourrait entraîner des révoltes ou qu'il y aurait ces choses dans ces manifestations. Alors, maintenant, si l'homme d'aujourd'hui se révolte ou l'homme du Verseau se révolte, ne serait-ce pas la manifestation d'un trouble aussi, mais à un niveau supérieur, comme les animaux se révoltent ou la nature se révolte à cause d'un trouble au niveau supérieur qui est l'homme, l'homme se révolte parce qu'il y a un trouble à un niveau supérieur à l'homme, c'est à un autre niveau, j'aimerais qu'on parle de cette guerre, de ce trouble qui se passe à un autre niveau.
La révolte de l'homme de la cinquième race, la révolte de l'homme qui passe de la cinquième à la sixième, la révolte de l'homme qui passe de l'inconscience à la conscience, la révolte de l'homme qui prend conscience de son lien télépathique avec l'esprit, ainsi de suite. Cette révolte, elle fait partie de la descente de l'esprit dans la matière. Donc, l'homme ne peut pas se révolter tant qu'il ne subit pas, sur le plan mental, sur le plan émotionnel, dans sa vie, cette descente d'énergie en lui. La révolte, elle est créée par l'esprit. Elle est le produit de la réaction humaine contre la puissante descente de l'esprit, mais elle est formulée en termes psychologiques pour détruire la mémoire de l'âme. C'est très délicat, cette partie. Quand je dis, moi, que l'homme n'est pas cette partie purement matérielle, que l'homme est un tout, et qu'il y a une partie matérielle, visible, et qu'il y a une partie invisible et immatérielle, et que la partie immatérielle, en pénétrant dans le matériel, fait vibrer tellement les matières qui sont subtiles jusqu'au mental, qu'il se crée éventuellement une révolte, c'est-à-dire qu'il se crée éventuellement une réorganisation de ces matières en fonction de la mémoire que possède l'homme de son passé. Exemple. Lorsque l'homme entre dans l'énergie de l'esprit ou dans l'énergie de l'intelligence, ou qu'il rentre en fusion, il vit progressivement une souffrance dans le mental, ou une souffrance ici, dans le plexus solaire. Alors, cette souffrance, elle naît d'où? Elle naît pas seulement du fait de pénétration de l'esprit, mais elle naît du fait que la lumière de l'esprit, en passant dans les plans de l'homme, qui sont contaminés par la mémoire de l'humanité, ou la mémoire individuelle, crée cette réaction. Donc, le développement de l'homme demain, sa révolte demain, n'est pas une révolte semblable à la révolte des plans inférieurs. La révolte des plans inférieurs, c'est une révolte qui est beaucoup plus philosophique que réelle dans le sens que l'homme peut le comprendre. Elle est beaucoup plus réelle, par contre, dans un autre sens que l'homme ne peut pas comprendre. Autrement dit, si nous parlons du mouvement des forces volcaniques, si nous parlons du mouvement des forces terrestres, tectoniques, ces mouvements, ces forces, sont le résultat d'activités dans la Terre, des forces archaïques qui ne veulent plus perdre le contrôle de la matière. Autrement dit, les forces volcaniques, les grandes forces telluriques de la Terre ne sont pas sous le contrôle de la lumière. Elles sont sous le contrôle des forces archaïques. Alors, les forces archaïques, lorsqu'elles deviennent superactives à cause des grands mouvements qui se produisent, créent des échantillons de leur puissance dans la matière que nous, les hommes, à cause de notre inconscience, à cause de notre lien astral avec ces forces, par le biais de notre mémoire, nous sommes amenés à souffrir. Exemple. Vous vivez en Californie. Je vais prendre un autre endroit parce qu'on va dire qu'il a dit que c'est en Californie. Bon. Si je prends un endroit, on va dire qu'il a dit que c'est en là. Bon. En tout cas, vous vivez sur la Terre à un certain endroit. Si vous n'avez pas de conscience, autrement dit, si vous n'avez pas conscience avec l'esprit, avec votre intelligence créative, avec votre double, automatiquement, vous vivrez un karma quelconque, une conséquence d'un karma quelconque en fonction d'une activité tellurique. Mais si vous êtes en contact télépathique avec votre double, vous ne pourrez pas vivre cette activité. Donc, l'activité tellurique, planétaire, matérielle, des forces archaïques contre vous est totalement inutile. Donc, la Terre peut sauter, les volcans peuvent sauter, le tellurique peut devenir extrêmement actif, mais l'homme est toujours sécur. Donc, la révolte des règnes inférieurs est une révolte créée par le conditionnement de l'homme aux forces archaïques. Ce n'est pas une révolte qui naît nécessairement de la condition de l'homme. C'est une révolte qui naît de la condition du lien entre l'homme et les forces archaïques qui amène ces forces à agir contre lui pour son expérience astrale, son expérience planétaire. L'homme conscient de demain, l'homme du Verseau, l'homme des prochaines évolutions, quelle que soit la condition de la révolte, comme vous dites, sur la Terre, ne sera jamais affecté par les règnes inférieurs. L'homme de l'évolution ne doit pas être affecté par les conditions des règnes inférieurs. Les règnes inférieurs ont leur évolution. D'ailleurs, les règnes inférieurs existent pour la présence humaine. Tout ce qui est de basse vibration existe pour supporter les hautes vibrations en tant qu'espace et terre. Alors, ces conditions-là font partie de la réalisation dans la matière du travail des grandes forces archaïques. Mais l'homme, lui, doit en être libre. Alors, si l'homme est conscient, quel que soit ce qui se passe dans le domaine des plans inférieurs, dans le domaine des royaumes inférieurs, lui n'est pas affecté. Qu'il y ait famine, qu'il y ait radioactivité, la radioactivité c'est une activité des forces archaïques, une des grandes d'ailleurs. Alors, la radioactivité, les famines, la décomposition, ainsi de suite, tout ceci n'affecte pas l'homme parce que l'énergie du double supportera le mental, le vital, le physique et l'astral de l'homme contre toutes ces affectations. Parce que la vibration qui passe du double et qui entre dans l'homme est tellement forte que ces matières inférieures, leur radiation, leur pouvoir vibratoire ne peut pas affecter les corps de l'homme.
Alors comme ça, c'est fini de monter sur le bord d'un volcan qui va faire éruption, puis de lancer dans la gueule du volcan une fille vierge pour empêcher le volcan de faire éruption.
Bon, mais ça fait partie de la superstition de l'humanité, ça fait partie de la stérilité de l'humanité, ça fait partie de la magie noire de l'humanité.
Alors, est-ce que sur le même niveau, la notion de l'enfer, de croire qu'il y a un enfer où on va tomber, on va mourir, on va brûler, jusqu'à la fin de la fin, qu'il n'y a pas de fin?
Non, mais tout ceci encore fait partie des notions de l'humanité, ça fait partie des notions astrales de l'humanité. Un enfant qui est jeune, qui n'est pas arrivé à un âge adulte de maturité, pour lui, l'enfer, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose qui lui fait peur. Un homme qui est conscient, n'est pas affecté par ces choses-là. D'ailleurs, les gens citent toujours la Bible, le Nazaréen, quand le Nazaréen dit qu'il est descendu aux enfers. L'homme conscient n'est pas affecté par les basses vibrations de ces plans-là. Donc, toutes les nominations, toutes les dénominations, toutes les mots, tous les concepts, toutes les paroles qui suscitent la crainte ne l'affectent pas. Parce qu'il est intégré. Ce qui crée la crainte chez l'homme, c'est le manque d'intégration, c'est le manque d'unité entre le physique, le vital, l'astral, le mental et le supramental, si l'homme est intégré, il ne connaîtra pas ses craintes. Il ne les connaîtra pas, parce que c'est contre... c'est impossible, tu ne peux pas les connaître, ses craintes. Tu ne peux pas être dans l'intelligence et être en dehors de l'intelligence, soit que tu es dedans ou tu es en dehors. Tu ne peux pas faire de jeu. Alors, soit que tu es dans l'intelligence ou tu n'es pas dans l'intelligence. Alors, quand tu passes d'un, quand l'homme passe d'un niveau à un autre, il commence à connaître le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, et éventuellement il connaît très bien le jeu. Quand il connaît très bien le jeu, il vit, il n'existe plus.
Pourrait-on dire que l'attitude des Juifs lors de la dernière guerre, l'extermination des Juifs par Hitler, a fait que ces êtres, en relation avec les textes les plus sacrés qu'on puisse connaître, ne vivaient pas justement dans la crainte, ils se sont laissés immoler. Des milliers de Juifs se sont laissés immoler sans se révolter, parce qu'ils ne craignaient pas, parce qu'ils n'étaient pas dans la crainte, parce qu'ils étaient en relation avec la connaissance, des grandes connaissances.
Écoutez, vous parlez des Juifs, vous parlez des masses juives qui se sont fait exterminer dans la crainte, qui se sont fait exterminer par Hitler. Ces gens-là ont vécu la crainte, ils ont vécu la grande crainte. Ce n'est pas parce que les Juifs ont une cabale et que les Juifs ont des sciences ésotériques que les masses des Juifs connaissent ces sciences. Vous pouvez compter sur vos doigts les Juifs qui connaissent la cabale. Sur vos doigts. Moi, j'ai parlé à des Juifs de la cabale et ils se disent, qu'est-ce que c'est ça? Ils ne connaissent pas la cabale. Beaucoup de Juifs qui ne connaissent pas la cabale. Ben, vous n'avez pas besoin d'aller loin. Il y a quelques années à peine, il y a combien de catholiques qui avaient lu la Bible? C'était restreint dans ce temps-là. Bon, c'est la même chose pour les Juifs. Pensez-vous que les Juifs ont le temps de lire la Kabbale? Ils s'occupent d'autre chose. Il y a des Juifs qui s'occupent de la Kabbale. Et ceux qui s'occupent de la Kabbale s'en occupent selon leur évolution, selon leur esprit, selon leur philosophie, selon leur sensibilité. Pour connaître l'intelligence cachée derrière les signes, il faut être en contact avec l'esprit, sinon ça devient de l'ésotérisme.
Dans la plupart des grandes traditions ésotériques, religieuses, etc., il est toujours fait mention que bientôt, c'est l'ère du Verseau, c'est le retour du Messie, c'est la venue du Messie, c'est le Mavantara qui se termine pour un nouveau cycle en Inde. Donc, qui que ce soit, quoi que ce soit, parle des mêmes réalités. Bernard nous parle à sa façon de cette même forme de réalité-là.
Oui, qu'est-ce que je veux dire?
Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil, effectivement.
Donc, tout est...
Tout est connu d'avance.
Prévisible.
Ben oui,
effectivement. Tout est connu d'avance.
Évidemment.
Et quelqu'un qui est en relation avec, mais non tout... plus la mémoire, mais est en relation avec l'intelligence, sait précisément les événements qui doivent arriver.
Mais oui, c'est normal, tout est connu, tout est su. Le hasard n'existe pas. Il s'agit de bien comprendre les événements, il s'agit de bien comprendre le symbolisme, s'il y a symbolisme dans la dictée des événements. C'est là que les gens font erreur, c'est là que les gens se fracassent le cerveau, que les gens perdent de l'énergie. Si vous lisez les anciens textes, si vous lisez les textes de n'importe quelle nation qui a eu contact avec des initiés, il faut comprendre ce qui est écrit derrière le mot. Sans ça, on finit par une pagaille, on finit par de l'ésotérisme, on finit par une attitude psychologique de crainte, on devient craintif, on cherche, on essaie de comprendre, et ainsi de suite, et c'est normal, mais ça va beaucoup plus loin que ça. La fin d'un cycle, c'est une chose absolument extraordinaire, mais non pas du point de vue humain, du point de vue cosmique. Du point de vue humain, la fin d'un cycle, c'est toujours de la merde, c'est toujours de la cacophonie, c'est toujours de l'abrutissement, c'est toujours une désintégration, c'est toujours une puanteur qui sort des profonds de la terre. Mais ce que ça signifie, ce que ça amène, ce que certains hommes sur la terre y comprennent, c'est une autre chose. La fin du cycle pour les Atlantes, ça n'a pas été un cadeau. Ça n'a pas été un cadeau, la fin du cycle pour les Atlantes, ce que vous appelez le déluge. Mais... pour certains Atlantes, la fin du cycle, ça a été la création d'une nouvelle race, la cinquième. Et c'est la même chose pour nous. La fin du cycle pour l'homme de la cinquième race, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais il faut la comprendre, il faut le savoir. Il faut être dans l'énergie de cette fin de cycle, il faut être dans l'intelligence de cette fin de cycle. Sinon, c'est une plaidoirie pour la mort, c'est une plaidoirie pour le suicide, c'est une plaidoirie pour la tristesse, c'est une plaidoirie pour l'anxiété, c'est une plaidoirie pour tous les aspects de l'expérience humaine qui relève de l'astral sur l'homme, de son contrôle, de sa domination, au lieu que ce soit un agencement de plus en plus perfectionné du mental inférieur avec le mental supérieur, autrement dit le contact entre l'esprit et le cerveau éthérique de l'homme. La fin du cycle, c'est absolument extraordinaire, mais évidemment, si nous la regardons d'un point de vue humain, d'un point de vue planétaire, d'un point de vue émotif, d'ailleurs le problème de l'homme sera dans son émotion tant qu'il n'aura pas transmuté cette énergie. Si l'homme regarde la vie d'un point de vue d'émotion, s'il colore son intelligence avec de l'émotion, s'il astralise, autrement dit, son intelligence, il est évident qu'il ne pourra pas vivre la fin du cycle d'une façon parfaite, d'une façon grandiose, d'une façon vitale, d'une façon victorieuse. Il ne pourra pas passer outre, il mourra de crainte. Et c'est là que vient la nécessité pour l'homme de ne pas entraver le travail de l'énergie, de l'intelligence qui entre en lui, qui bouscule un peu ses croyances, ses fondations. C'est là. Mais s'il n'est pas capable d'empêcher que cette énergie bouscule ses croyances, son statu quo psychologique, s'il n'est pas capable d'empêcher ceci et qu'il est capable de le supporter, il ira très loin. Mais s'il est trop faible dans l'émotion, s'il est trop insécure dans l'émotion, s'il est trop enraciné dans sa mémoire, il ne pourra pas supporter le choc de cette énergie qui transforme et qui additionne et qui altère toutes les configurations de sa mémoire pour faire pénétrer en lui une intelligence qui est neuve, qui fait partie de l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est l'ère de l'intelligence cosmique. L'ère de l'homme de la cinquième race a été l'intelligence mentale inférieure. Et après le Verseau, après la sixième race, après, il y aura une autre ère qui sera le cycle de la volonté. Alors, l'homme doit le vivre. Ceux qui sont marqués pour le vivre, le vivront. Ceux qui ne sont pas marqués ne le vivront pas. Mais ils bénéficieront de l'expérience à la fin du cycle, il est évident.
Alors, revenons là-dessus. Ceux qui sont marqués, ceux qui ne sont pas marqués. Pour ceux qui ne sont pas marqués, qu'est-ce qu'ils vivent?
Ceux qui ne sont pas marqués retournent, ceux qui sont marqués continuent. Ceux qui ne sont pas marqués doivent redéfinir leur expérience, recomprendre l'expérience. L'âme est encore dominante dans leur vie. Ceux qui mourront à la fin du cycle, ceux qui mourront au cours des siècles qui viennent, devront reconnaître éventuellement des aspects de leur expérience qui doivent être raffinés. Et elles doivent être raffinées par le feu électrique qui fait partie du contact entre l'esprit et les matières subtiles de l'homme. C'est le feu électrique de l'esprit qui transformera l'homme. Ce ne seront pas les conceptions révolutionnaires de l'homme ou les conceptions philosophiques ou spirituelles ou ésotériques de l'homme. C'est le feu électrique. Et le feu électrique, quand il passe dans les corps, il brûle tout. C'est ça qui crée la nouvelle race. La nouvelle race n'est pas quelque chose qui championne dans les champs de la spiritualité. La nouvelle race, c'est quelque chose qui est trempé dans le feu, qui est brûlé, qui est bousculé dans tout ce que peut amener vers la terre l'esprit. Et les hommes de cette race le vivront. Il ne s'agit pas pour l'homme de... Ce n'est plus, vous savez, pour l'homme de la sixième race, ce n'est plus un problème philosophique, la vie. Ce n'est plus un problème psychologique, la vie. C'est un problème vibratoire. Et les hommes qui ont la capacité de subir la vibration, de supporter la vie nouvelle, cette vibration qui entre et qui est très très concrète, laissez-moi vous dire, ne peuvent plus vivre psychologiquement ou philosophiquement. Ils ne sont plus intéressés. La connaissance ne les intéresse plus. La connaissance, ça fait partie de la couronne psychologique de la cinquième race. C'est ce que a développé la cinquième race, c'est ce qui lui a donné ses épaulettes. Ce n'est pas de la connaissance que vivra la sixième race. La sixième race vivra du pouvoir de l'énergie de la lumière, transformant la forme pour le bénéfice d'une nouvelle humanité. C'est une nouvelle évolution. Donc, ceux qui sont, comme vous dites, marqués, ou comme j'ai déjà dit, marqués, ceux qui sont marqués sont marqués. Ceux qui ne sont pas marqués devront retourner au monde de la mort pour revenir un jour dans d'autres corps plus perfectionnés, à l'intérieur d'une civilisation plus évoluée, où ils auront accès à des connaissances, à une nouvelle mémoire, leur donnant plus facilement accès à la fusion. Et c'est comme ça que se traitera les événements de l'avenir. C'est comme ça que l'homme de la nouvelle race comprendra ce qu'il doit comprendre et ce que l'homme de la cinquième race ou de l'ancienne race devra retourner avec dans l'astral, dans le monde de la mort, pour continuer à étudier, pour continuer à comprendre et à reconnaître les signes qui donnent à une humanité l'apogée de sa conscience et la vertu de son pouvoir. Ce n'est pas dans le monde de la mort que l'homme peut exorciser l'astral ou les forces archaïques. C'est dans le monde de la matière qu'il doit l'exorciser. Mais pour qu'il puisse l'exorciser, il faut qu'il puisse la comprendre. Pour qu'il puisse la comprendre, il faut qu'il ait un contact minimal avec son intelligence créative. D'où l'initiation solaire, d'où la transmutation, d'où la souffrance des fils de la lumière, d'où la souffrance des révolutionnaires du Verseau, si vous voulez. Tous les hommes qui passeront à la sixième devront souffrir cette transmutation. Ceux qui ne pourront pas la souffrir, la vivront dans un autre temps, et dans cet autre temps, déjà, elle aura été souffert, donc les hommes en bénéficieront au lieu de l'avoir souffert. Et là, vous me demanderez pourquoi il y en aura qui ont souffert avant et d'autres qui n'ont pas souffert après. Et je vous dirai que ça fait partie des lois de l'évolution. La souffrance n'est pas nécessaire. Elle est essentielle dans un certain temps. Regardez quand les hommes créent quelque chose, tout le labeur qui va dans la formation d'une forme. C'est dans la formation d'une forme, c'est dans la gestation, c'est dans le début d'une forme que tout le labeur vient. Ceux qui ont la capacité de créer ce labeur le créent pour que les autres ensuite en bénéficient, c'est l'évolution. Les plus forts supportent toujours les plus faibles. S'il n'y avait pas d'hommes forts dans la vie, à tous les niveaux, même dans la vie inconsciente de la cinquième race, ce sont les hommes forts de la vie, les hommes forts dans tous les domaines de l'expérience humaine qui supportent les hommes faibles. Parce que la vie, c'est une hiérarchie. Il est évident que tous les hommes n'ont pas la même capacité, n'ont pas la même force créative. Donc, il y a des hommes forts qui supportent la vie. Il y a des politiciens aujourd'hui qui supportent les conditions économiques très difficiles de notre temps. Moi, je suis sûr, je serais très peiné d'être aujourd'hui dans le gouvernement. Je trouve que les types qui sont dans le gouvernement, qui gouvernent, que ce soit dans le provincial ou dans le fédéral, sont des hommes. Je ne dis pas tous, là, parce qu'il y a toujours des hommes qui ont plus ou moins de vertu, mais je parle de ceux qui ont de la vertu, les politiciens ou les hommes d'État, ceux qui sont réellement des gens qui vivent de ce métier. Ce métier fait partie de leur vie. Eux ne sont pas révolutionnaires, ils institutionnalisent. Ces hommes-là, ils ont quelque chose d'absolument merveilleux, c'est qu'ils ont un certain courage. Et ceux qui sont capables, ceux qui ont la force de continuer, comme pendant des années de temps. Ce sont ces hommes-là qui supportent, quelle que soit la critique. Quand vous avez, comme dans notre pays, un premier ministre qui est à la charge d'une nation, qui passe par des courants très difficiles pendant des années et des années, à travailler pour substantialiser sa ville, pour lui donner un certain cachet, ça prend de la force. Et les conditions, les nuances politiques, pour moi, ça n'existe pas. Je regarde simplement la force de ces hommes, les hommes qui subissent la pression de tous les côtés. Et ces hommes-là, ce sont des hommes qui sont merveilleux et ce sont des hommes qui doivent être réellement considérés dans leur créativité, même s'il y a des erreurs dans leur créativité. Ils doivent être considérés en vertu de leur créativité. Il y a des hommes qui travaillent dans les domaines opposés, dans les mouvements opposés, dans le mouvement ouvrier, ainsi de suite. Ce sont des hommes aussi qui ont la vertu de leur esprit. Et plus l'homme se conscientise, que ce soit dans n'importe quel domaine, plus la vertu change, plus elle devient parfaite. Et ça, c'est la sixième race. Dans la sixième race, il n'y aura plus de conflit entre ceux qui contrôlent, ceux qui gèrent, ceux qui dominent et ceux qui sont gérés ou dominés à l'intérieur d'une même hiérarchie. Ce sera une conscience universelle, mais ce sera aussi une nouvelle psychologie. Une psychologie qui n'est pas fondée sur la mémoire de l'humanité, mais une psychologie qui est le produit de l'intelligence de l'homme, qui est indiquée à l'homme. Et cette psychologie, elle est totalement vibratoire. Et c'est pour ça que ceux qui viendront, ceux qui créeront la nouvelle race, seront les plus forts, et ceux qui viendront ensuite seront ceux qui pourront bénéficier de cette créativité, de ce mouvement original. Il doit toujours y avoir des pères dans une race. Il y a toujours des pères, il y a toujours des individus clés. Parce que une race ne peut pas naître sur une planète sans que les parents soient forts. Et c'est comme ça que ça fonctionne.
La façon dont nous parlions, on dirait que ça va se faire en douceur, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de gens de la nouvelle race, et graduellement, la situation va tourner d'elle-même sans choc.
C'est-à-dire que les chocs existeront au niveau de la conscience planétaire, au niveau de la vie mondiale. Il y aura des chocs, c'est évident. Mais les chocs que connaîtra la sixième race seront intérieurs. C'est l'individu qui vivra les chocs. Ceux qui pourront subir ces chocs, autrement dit, j'appelle des chocs, le contact de la lumière avec les plans inférieurs, ceux qui vivront ces chocs, qui sont capables de passer à travers ces chocs auront cette fusion, cette connexion avec l'intelligence. Et automatiquement, ça continuera, parce que les chocs vont amener de l'intelligence, l'intelligence va amener de la connaissance, la connaissance va permettre aux hommes d'avoir une nouvelle mémoire, de se créer une nouvelle mémoire, une mémoire qui est créative, au lieu d'une mémoire qui est purement statique et dynamique en même temps. Ce sera une nouvelle mémoire. L'homme pourra pousser les frontières de l'absolu. Moi, j'en ai une expérience, parce que je le vis dans mes séminaires, je le vis dans mon contact avec le public. Je le vis quand on me questionne sur telle chose ou telle chose. Et moi-même, aujourd'hui, je suis habitué, je n'en souffre pas tellement, mais moi-même, quand je pousse les frontières de l'absolu, je pousse et je pousse et je pousse, je vis le choc vibratoire de l'énergie créative sur mon corps mental. Je le vis. Parce que l'homme a automatiquement... L'homme vit un mécanisme automatique qui lui fait se demander, mais qui suis-je, moi, pour parler ainsi? Qui suis-je, moi? Ça, c'est l'ego. Et ça prend des années et des années avant que l'ego puisse canaliser l'énergie de l'intelligence et ne pas souffrir, c'est-à-dire ne pas avoir à se demander, qui suis-je, moi, qui parle ainsi? Une fois que l'homme n'a plus ce problème-là, à ce moment-là, il peut pousser les frontières de l'absolu. Il peut dérégler le cadran de la mémoire humaine et le régler à une autre heure. Et l'heure à laquelle il le règle, c'est l'heure de la nouvelle race. Donc, les conditions du réveil sont dictées par l'intelligence. Ils ne sont pas dictées par la mémoire de l'ancienne civilisation.
L'utilisation à outrance des drogues.
Pardon?
L'utilisation à outrance des drogues dans notre civilisation actuelle.
Oui.
Elle serait le symptôme de quel...
Le phénomène de la drogue, c'est très intéressant. Il y a le côté social de la drogue. Le côté social de la drogue, ça fait partie totalement de l'influence des forces archaïques contre l'homme, pour démantibuler, pour diviser l'homme. Sur le plan individuel, la drogue est le résultat de la sensibilité de l'homme. Il y a des hommes qui sont sensibles, mais qui n'ont pas de réponse. Il y a des hommes dans le monde qui sont sensibles, mais qui n'ont pas de réponse dans l'éducation, qui n'ont pas de réponse dans la philosophie, qui n'ont pas de réponse dans la psychologie, qui n'ont pas de réponse dans la spiritualité. Donc, ils croient que peut-être il y aura réponse dans la drogue. Alors, qu'est-ce qui se produit? Il y a un phénomène de communication qui se produit. Un ami vient et dit, écoute, je ne sais pas comment il parle là, mais il dit, écoute, si tu prends ça, c'est au bout. Si tu prends du pout, c'est au bout, le pout. Alors, le type, lui, il ne sait pas. Il n'a jamais eu l'expérience. L'autre, il a eu son expérience subjective. Il sait que ce n'est pas aussi au bout, mais il faut qu'il dise à l'autre que c'est au bout pour que lui soit au moins pas tout seul dans le bas du bout. Tu comprends? Bon. Alors, finalement, l'autre le fera. Et ça se continue comme ça. Autrement dit, c'est une contamination, c'est une influence. Mais au moins, il y a des individus qui se sensibilisent intérieurement à cause de cette expérience. Mais aussi, ils souffrent socialement, parce que, bien que astralement, le corps astral ait été bousculé par l'énergie de cette drogue, parce que ça change, ça affecte le corps astral, ils n'ont pas la capacité de réaliser, ils ne peuvent pas réaliser ce qu'ils croyaient. Ils attendent à quelque chose, et ça vient pas assez plus loin. Et ça, c'est leur souffrance. Donc, le phénomène de la drogue, c'est un phénomène qui est astral, qui fait partie de l'expérience de l'homme et qui fait partie de l'expérience de la société. Il y a des hommes qui en bénéficient dans ce sens qu'éventuellement, ils se réajustent. Il y en a qui meurent. Et sur le plan social, mais ça crée ce que nous connaissons, ça colore toute notre psychologie, ça accélère la décadence. La drogue, la fonction de la drogue, c'est d'accélérer la décadence dans le monde occidental.
L'utilisation des messages subliminaux à travers les disques, disco, tout le reste, rock and roll. Encore une fois, utiliser des techniques qui ne sont pas d'éveil, mais d'endormissement.
C'est encore subtil, ça. C'est encore le mouvement des forces archaïques, des forces astrales, à travers la drogue, à travers la musique, à travers les incantations. Là, ça commence à être dangereux. Parce que là, ce n'est plus seulement la drogue. La drogue est utilisée pour faire la musique, parce que la drogue ouvre les centres psychiques. Donc, ensuite vient la musique et... De la musique vient une incantation de la magie noire. Donc, rendu à ce point-là, les forces astrales sont très, très contentes. Et d'ici à la fin du siècle, d'ailleurs, je n'aime pas tellement parler de l'avenir, mais je vous dis que d'ici à la fin du siècle, à moins qu'il y ait un contrôle de la part des gouvernements, qu'il y ait un contrôle de la part des individus, d'ici à la fin du siècle, viendra un point où le dernier mouvement de cette musique moderne, contemporaine, sera vers la magie noire. Autrement dit, la musique sera contrôlée par les forces archaïques. Et la magie noire sera, D'ailleurs, ça se produit, vous venez de le dire sur ces disques. Et il y a c'est inévitable. C'est inévitable.
Et le grand Manitou de la magie noire ne serait-ce pas l'antéchrist?
Ce que vous appelez l'antéchrist, c'est très subtil, mais je ne veux pas parler d'antéchrist. Je ne parle jamais en public de l'antéchrist. Mais je ne parle jamais en public de l'antéchrist. Mais c'est très subtil, l'antéchrist. Mais je ne parle pas en public de l'antéchrist. Mais c'est très subtil, l'antéchrist. Mais ce n'est pas un problème pour l'homme conscient. Mais c'est un problème pour l'homme inconscient. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter non plus, parce qu'on fait de l'overtime.
La bête et l'antéchrist, c'est deux.
La bête, c'est le chum de l'antéchrist.
Vous ne parlez pas du chum de l'autre?
Je ne parle pas de l'antéchrist. Je ne parle pas de la bête. Je ne parle pas de si je laisse ces choses à des gens plus érudits dans l'ésotérisme.
Alors, sans parler d'ésotérisme, puisque ce n'est pas votre faible, parlons de ce que ça représente. Parlons de ce que ça représente pour l'homme conscient.
Pour l'homme conscient, l'ésotérisme, éventuellement, ce n'est plus nécessaire.
Non. Je veux parler de la bête, c'est l'antéchrist.
Vous parlez de l'homme conscient, la bête, le 666, ça ne représente absolument rien. Parce que l'homme conscient est dans l'esprit. Quand tu es dans l'esprit, tu n'as pas besoin de vivre les conditions karmiques de l'humanité. S'il est là, il le voit. S'il est là en influence, il le sait. Il le sait. On s'inquiète de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne sait pas, mais on ne s'inquiète pas de ce qu'on voit et de ce qu'on connaît. Donc, l'homme conscient n'a pas à s'inquiéter de l'antéchrist.
Bon, on va devenir très pratique.
Oui. Alors,
le jour où le 666 sera la clé de contact pour pouvoir avoir droit de vivre dans notre civilisation, l'homme conscient aura beau dire « je suis conscient que le système 666, je ne veux pas y adhérer », mais s'il ne veut pas y adhérer, il se retrouve ou en prison, ou il perd la tête sur les épaules, ou il s'en va se cacher dans le bois. L'homme conscient se retrouve dans le bois.
N'oubliez pas que lorsque je parle de l'homme conscient, je parle de l'homme qui aujourd'hui se conscientise et qui demain sera en contact avec l'éther. Quand je parle de l'homme conscient, je parle de l'homme qui a contact avec l'éthérique, je parle de l'homme qui a contact avec les forces de son double, je parle de l'homme qui est capable de neutraliser l'homme matériel, je parle de l'homme qui est capable de, par sa volonté, neutraliser la matière. Quand je parle de l'homme conscient, je parle de l'homme qui, demain, à cause de sa fusion, pourra faire éclater l'atome par son esprit. Donc, cet homme est totalement libre.
Il n'y en a pas gros comme ça aujourd'hui.
Je parle de demain. Je parle de demain. Je parle de l'évolution de l'homme conscient. Je parle de la nouvelle race de l'homme. Je parle du sur-homme que l'on parle dans les textes ésotériques. Je parle de l'homme qui manipule l'énergie. Je parle de l'homme qui ne fait pas partie de la cinquième race. Je parle d'un autre homme.
Et cette conscience lui viendra, comme pour Bernard, d'une fusion par une initiation solaire.
Cette conscience, elle se développe. Moi-même, je n'ai pas fini d'évoluer dans cette conscience. Cette conscience évolue, et elle évolue, et elle évolue, et elle évolue, et elle évolue. Et lorsque elle a atteint son point culminant à l'intérieur d'une certaine catégorie d'activité qui doit être véhiculée à travers cet homme, elle passe à un autre niveau de vibration. La conscience de l'homme, elle est sans fin. C'est le travail qu'il fait avec qui est conditionnel à l'histoire. Ce que l'homme peut faire aujourd'hui, ce qu'il fera dans 5 ans, ce qu'il fera dans 10 ans, fait partie de l'organisation matérielle de la Terre en fonction de cette énergie. L'homme ne peut pas utiliser cette énergie sans que ce soit le temps.
Est-ce que cette énergie pourrait être comparée à la magie blanche? Vous avez parlé de la magie noire tantôt, des incantations, etc. Mais il existe des clés en ésotérisme, entre parenthèses, qui donnent des pouvoirs grâce à la magie blanche.
Oui, mais la magie blanche, c'est le côté positif de l'astral. La magie noire, c'est le côté négatif de l'astral. Que vous fassiez de la magie blanche ou que vous fassiez de la magie noire, vous êtes encore dans l'astral. Que vous travaillez avec des maîtres de très haute spiritualité ou que vous travaillez avec des maîtres de basse spiritualité, vous ne travaillez pas avec vous-même, vous travaillez avec d'autres. Autrement dit, vous êtes toujours dominé. Un homme qui fait de la magie blanche, il est dominé par celui qui succède en vibration à l'état d'esprit de son ancienne mémoire. L'homme qui fait de la magie noire fait partie de la même réunion des forces astrales qui convoquent à l'intérieur de son plexus solaire les images dont il a de besoin pour ouvrir sur le plan matériel les conditions et les corridors de cette énergie. Mais l'homme de la sixième race, l'homme nouveau, ne fait pas de magie blanche, il ne fait pas de magie noire, il est pouvoir sur la Terre.
Mais quand Bernard nous disait tantôt que devant certains événements ou à l'époque où on aura le système CCC sur la planète, que l'homme pourra agir sur l'atome, faire éclater l'atome par la force de sa pensée ou de sa volonté, et que Bernard nous dit, ça viendra avec l'évolution, et vous nous avouez que vous-même, vous êtes en évolution, c'est donc que c'est pas vérifiable encore. C'est une forme de prétention ou une forme d'espoir, une forme de croyance, finalement.
Il n'y a pas de croyance en l'intelligence. L'intelligence ne croit à rien. L'intelligence exprime absolument l'avenir ou le passé. L'intelligence n'a pas de croyance. L'intelligence, elle est créative. Elle voit loin. Puisque c'est l'énergie de cette intelligence qui est à la base de la nouvelle évolution, ce que cette énergie manifeste sur le plan matériel en termes de connaissances fait partie de cette évolution. Il ne s'agit pas pour l'homme de croire, il s'agit de l'homme de savoir. Et savoir n'a rien à faire avec la subjectivité de l'homme. Savoir, c'est un état d'esprit. Un homme qui sait n'a pas de choix, tandis que l'homme qui croit a un choix. C'est pourquoi l'intelligence n'est pas un cadeau. La connaissance, oui, mais pas l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas un cadeau. C'est une condition de vie, c'est un état de vie, c'est un état d'esprit. Un homme qui est dans son intelligence ne peut pas dire ce qu'il veut, il doit dire ce qu'il doit. Et ce qu'il doit ne convient pas toujours à l'ego. Et si l'ego bloque ce qu'il doit dire, il sera amené à un autre niveau de vibration pour qu'il ne bloque pas ce qu'il doit dire. C'est ça l'intelligence. Ça fait partie de la force créative à l'intérieur de l'homme.
Alors, pour quelle raison vous ne pouvez pas nous parler de la bête?
Je ne vous parle pas de la bête parce que si je vous parle de la bête, vous allez faire des formes avec la bête comme vous faites des formes avec tout ce qu'on peut parler. D'ailleurs, parler de l'Apocalypse, ça m'intéresse pas moi l'Apocalypse. Vous autres, ça vous intéresse parce que vous pensez à ça, mais vous êtes dans une sorte de recherche spirituelle, vous essayez de vous situer vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde. Moi, l'Apocalypse m'intéresse pas. C'est pas l'Apocalypse qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est 2000, 2100, 2500, 2600 après. C'est pas le temps aujourd'hui. L'Apocalypse, j'ai pas d'intérêt. Qu'est-ce que je voulais que je m'intéresse à l'Apocalypse? L'Apocalypse, pour moi, ça fait partie de l'évolution, l'Apocalypse. Je suis pas intéressé à l'Apocalypse. L'Antéchrist, la paix. Non. Ça me dit rien, ces choses-là. Je les comprends, mais ça me dit rien. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, dans un sens en particulier, ce qui m'intéresse, c'est de parler de l'avenir, pas de parler du présent.
Mais vous êtes conscient, Bernard, que vous êtes un rare comme ça?
Bon, je ne suis pas un cadeau, c'est évident. Je suis content que je ne suis pas un cadeau. Puis, je suis conscient que je ne suis pas un cadeau, mais je ne peux pas faire autrement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais, il y en a de plus en plus de rares. J'en rencontre de temps en temps, des drôles. J'en rencontre des rares. Puis quand j'en rencontre des rares, ben c'est le fun. Parce que deux fois ensemble, on se complète.
J'écouterais se parler les deux ensemble, ça serait pas pire.
C'est pas moi qui étais normal.
De quoi ils se parleraient? Deux Bernard. D'ailleurs, j'ai entendu parler que maintenant, Bernard a des rejetons Bernard. Là. Il y a un Bernard de Saint-Alphonse, il y a un Bernard de Candiac, il y a des Bernards dans la province de Québec un peu partout, là.
Ça doit être soit un bon produit ou ça doit payer.
Bernard ne parle que jusqu'en 1984. Sans parler de la bête, sans parler de l'Antéchrist, on n'osera pas imaginer des choses, là. Mais pourquoi jusqu'en 1984 et pas plus?
Je suis fatigué, je me repose.
Mais quand on arrive dans l'intelligence où on agit sur l'atome, on est sans doute capable d'agir sur son état de santé et son état de fatigue.
Je travaille fort. Bon, je fais faire deux choses. Je ne peux pas toujours faire ce que je fais. Il faut que je change. 84, je cesse de faire certaines activités. Ensuite, je commence d'autres activités. Mais si vous parlez de 84, là, il y a des gens qui vont s'imaginer que ça va se produire toutes sortes de choses à 84. Il ne va rien se produire à 84. Les gens pensent, les gens font d'overtime, le monde. Les gens, ça... C'est pas moi qui est comme ça.
Pas plus qu'en octobre 82, il devait se produire quelque chose à cause de l'alignement des planètes.
Ben, les gens font d'overtime. C'est effrayant, l'imagination de l'homme. C'est extraordinaire. Ça me bouleverse. C'est absolument fascinant.
Mais vous ne trouvez pas que c'est assez étonnant, malgré tout, de voir que la plupart des traditions arrivent toutes focalisées sur la fin des années 80-90, avant l'an 2000, pour une fin de cycle. Tout le monde est d'accord là-dessus, tout le monde arrive au même point final.
Bon, oui, tout le monde arrive au même point, c'est bon de... Mais ça se fait pas de même. Ça, c'est l'astral, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, l'astral. Savez-vous que si vous alliez dans l'astral et que vous parliez aux gens, là, pas bien déjà. Parce que, aussitôt que vous parlez avec des êtres qui sont dans l'astral, même s'ils sont très hauts dans l'astral, ils sont pognés dedans. Fait que si t'es pogné dans quelque chose, ben c'est évident que tout ce que tu parles, tout ce que tu dis découle de ça. Alors, les gens dans l'astral, on ne parlera pas du bas astral parce que les autres sont super pognés, mais ceux qui sont en haut dans l'astral sont prisonniers. Moi, j'ai un de mes grands amis qui est un grand bonhomme à Montréal, je ne vais pas nommer son nom, là, qui a fait partie, qui avait une responsabilité suffisante dans une certaine école ésotérique, une très belle école ésotérique. D'accord, j'y parlais, ainsi de suite, puis il pouvait comprendre certaines choses, et blablabla. Mais il s'était gardé un petit coin. T'sais, comme s'il avait dit, c'est Bernard de Montréal, là, il va pas m'enlever ça. T'sais, voilà. Penthouse. Puis là, il n'a plus son penthouse. Ça a sauté pareil. Et tu peux pas te réfugier dans l'astral à quelque niveau que ce soit. Quelques niveaux. Et les forces qui sont dans ces plans-là sont très complexes, très belles, c'est extraordinaire. Mais il y en a d'autres, il y a des âmes qui ne sont pas prisonniers de l'astral et qui ne peuvent pas être amenées par ces forces, ces intelligences-là, à subir leur domination. Moi, peut-être que j'en suis un et je suis sûr qu'il y en a d'autres. Et c'est pour ça que les hommes ou ces hommes-là, évidemment, à cause de leur conscience, créent toujours des chocs contre l'astral, que ce soit le haut ou le bas astral. Pourquoi? Parce que l'homme demain ne doit plus être dominé de l'extérieur. L'homme demain doit être capable de lui-même, individuellement, selon sa capacité d'absorber l'énergie de l'intelligence qui est infinie, de repousser les frontières de l'absolu. Ne pas être dicté des limites de l'absolu, comme l'astral nous dicte des limites de l'absolu, selon la religion, ou selon la secte, ou selon la société ésotérique à laquelle on appartient. Alors, pour les hindous, c'est une chose, pour les autres, c'est une autre chose. Il y a 4, 5, 10 différentes sortes de dieux. Ça tient plus de bout. C'est de l'insulte à l'intelligence de l'homme. Alors, mais c'est l'homme lui-même qui deviendra ou qui doit devenir son propre procureur. Son propre procureur. Si l'homme n'est pas capable de procurer pour lui-même et qu'il se laisse procurer par d'autres, c'est évident qu'il va se faire éventrer. Et c'est ça l'évolution. Et c'est tellement subtil que quand vous me parlez du 666, l'Antéchrist, là-bas, toutes ces choses, qui sont inévitablement connectés avec l'astralisation de l'intelligence de l'homme, n'ont aucun effet, n'ont aucune conséquence sur la conscience de l'être conscient. C'est ça que je veux dire. Je veux amener les gens à éventuellement être capables de, par eux-mêmes, de se servir de leur propre épée pour couper le cordon ombilical de leur mémoire,
qui est connecté à la mémoire de l'humanité, pour que les gens puissent en arriver à penser leur propre pensée, créer leur propre pensée, vivre de leur propre pensée, et non pas vivre de la pensée des autres. Ça, c'est une abomination, ça, c'est une désolation pour l'homme, c'est une domination pour l'humanité, et c'est effectivement une porte qui empêche l'homme d'entrer dans les terres. Alors, moi, dans mon expérience, probablement que je suis, j'en connais pas encore pour le moment, là, je suis peut-être le seul qui parle comme je parle, mais effectivement, il y en aura d'autres, parce que l'homme ne peut pas retarder la descente de la conscience supramentale sur la terre. L'homme ne peut pas empêcher son esprit d'extérioriser son énergie au lieu de l'intérioriser.